Good afternoon, delegates.
Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous prie de prendre place pour que nous puissions commencer nos travaux. Nous sommes en retard et nous avons beaucoup à faire. C'est la raison pour laquelle je vous prie de prendre place.
As agreed on Monday,
nous en sommes convenus lundi. Nous allons passer maintenant au point 13 de l'ordre du jour. Point 13. Mais auparavant, et avant d'aborder le point 13, j'aimerais donner la parole au secrétariat qui a quelques informations à nous communiquer. Le secrétariat a la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous avons reçu les formulaires de candidature concernant les vice-présidents de la commission et nous aimerions vous donner le nom des candidats par ordre alphabétique. Madame Gabriela Catalané de l'Argentine, Monsieur Samuel Godefroy du Canada, Madame Awilo Ochieng Pernet de la Suisse, Monsieur Samuel Sefa Dede du Ghana et Monsieur Ross Pagira de l'Indonésie. Nous avons donc 5 candidats pour 3 postes de vice-président. Nous devrons donc procéder à l'élection des vice-présidents à la fin de la séance après 17h30 et le conseiller juridique vous demandera ou demandera un quart d'heure pour vous expliquer la procédure à suivre pour l'élection des vice-présidents et il expliquera cela à partir de 5h15. Vers 5h15, nous interromprons notre discussion et nous passerons à l'élection des vice-présidents. Tout d'abord, nous écouterons le conseiller juridique qui nous expliquera la procédure à suivre. Merci. Le président, je remercie le secrétariat. Je propose que maintenant, nous passions au point 13. Il s'agit des relations entre la commission du Codex Alimentarius et d'autres organisations internationales.
And we...
Et... Au titre de ce point, un certain nombre de nos partenaires et collaborateurs ont demandé de prendre la parole pendant cette session de la commission. Les informations figurent dans les documents d'information qui ont été distribués. Pour commencer, je vais donner la parole au représentant de l'OIE. Est-ce que le représentant de l'OIE est dans la salle? Je vous demanderai d'être bref dans votre intervention car nous disposons déjà de toutes les informations que vous avez communiquées et je vous demanderai de mettre l'accent sur les questions qui mérite des éclaircissements pour les membres de la commission. Je donne maintenant la parole au docteur Valla, qui va intervenir au nom de l'OIE. Docteur Valla, vous avez la parole.
Thank you, Chair.
Merci, Monsieur le Président. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, Madame le Secrétaire, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Délégués, Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales et Régionales, Mesdames et Messieurs et Participants. Tout d'abord, nous tenons à remercier le FAO, l'OMS et le Secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius de me donner la possibilité de prendre la parole au nom des membres de l'Organisation mondiale pour la santé animale, l'OIE. J'aimerais également remercier Karen Golbach d'avoir accepté l'invitation de prendre la parole à l'Assemblée mondiale de notre organisation qui s'est déroulée au mois de mai cette année. Si vous voulez davantage d'informations concernant les activités que nous déployons, je vous renvoie au rapport détaillé qui figure sous la cote CAC-34-INF2. Louis a tenu sa 79e session générale du 23 au 27 mai 2011. Au cours de cette session, l'OIE a adopté des révisions aux textes fondamentaux, y compris des amendements au règlement général. Ces amendements prévoient que les normes seront adoptées sur la base du consensus et que, lorsque le consensus ne peut être obtenu, sur la base d'une majorité des deux tiers, d'un vote à la majorité des deux tiers. Auparavant, c'était une simple majorité qui était requise. D'autre part, ces amendements contiennent également des dispositions concernant les éventuels conflits d'intérêts pour les membres des commissions spéciales, des groupes de travail, des groupes ad hoc, des centres de référence OIE et des autres experts, ainsi que des dispositions concernant la protection de la confidentialité légitime. Ces 12 derniers mois, l'OIE a participé à plusieurs réunions du Codex et de ses comités. Nous nous félicitons de la participation des experts et du personnel du Codex aux réunions de l'OIE, en particulier aux travaux du groupe de travail de l'OIE sur la sécurité sanitaire de la production animale. La collaboration entre le Codex et l'OIE est essentielle, compte tenu de la façon dont nous comprenons maintenant la façon dont la santé animale contribue à la sécurité sanitaire de la chaîne alimentaire, de la ferme à la table. L'OIE et le Codex continuent de renforcer cette collaboration et veillent à ce que ces normes soient cohérentes, complémentaires et que nous évitions les lacunes, les contradictions et les doublons. L'OIE continue de renforcer ses capacités et les capacités de ses membres pour que soient respectées les normes de l'OIE et de l'OMC concernant la santé animale et les zoonoses, en particulier ce que nous appelons la voie OIE-PVS. Il s'agit d'une voie visant à renforcer les services vétérinaires ainsi que les services de santé animale pour les animaux aquatiques en utilisant l'outil OIE pour l'évaluation des performances des services vétérinaires et des activités connexes. Cela englobe des missions visant à renforcer la législation vétérinaire. À cet égard, l'OIE encourage le Codex à prendre en considération tant les normes de l'OIE que les procédures de la voie PVS lorsqu'ils mettent au point des recommandations concernant les exigences en matière de services d'inspection nationale pour les produits d'origine animale. Ce sont des questions qui, à l'heure actuelle, sont examinées par le CCFICS. Le rôle des services vétérinaires dans la sécurité sanitaire des aliments est examiné par les normes de l'OIE et par l'outil OIE-PVS, et l'expérience de l'OIE en matière d'évaluation porte sur plus de 110 membres, ce qui constitue une contribution précieuse à cette activité. Lors de la 33e session de la commission du Codex, j'avais réaffirmé que l'OIE souhaitait continuer de renforcer ses relations avec le Codex, en particulier par le biais de la mise au point conjointe de normes concernant les aliments sûrs d'origine animale. Et il s'agit de mettre au point ces normes de manière conjointe entre l'OIE et le Codex. J'ai constaté que le secrétariat du Codex a distribué une circulaire au point de contact Codex en 2010 sur cette question et a prié les membres de fournir leurs commentaires afin de servir de base à la discussion lors de la 27e session du comité du Codex sur les principes généraux en 2012. L'OIE attend avec intérêt la suite des discussions et continuera de travailler avec le secrétariat du Codex sur cette question. Comme je l'ai déjà indiqué dans des interventions précédentes en commission, l'augmentation des normes privées dans le commerce international continue de préoccuper les membres de l'OIE, en particulier les pays en développement. À la demande des membres, l'OIE est en train de mettre en place un mécanisme permettant d'assurer la coordination avec les organes normatifs mondiaux privés de façon à mieux comprendre les incidences des normes privées et à encourager ces organes à éviter des conflits avec les normes officielles. Par exemple, lorsqu'ils font spécifiquement référence à l'OIE, aux normes de l'OIE ou aux normes du Codex. Dans le cadre de cette collaboration, l'OIE signe un accord officiel avec l'Initiative mondiale pour la sécurité sanitaire des aliments. L'OIE va continuer d'explorer les possibilités de nouer des liens de collaboration plus étroits. L'OIE a convoqué un groupe ad hoc d'experts sur les parasites zoonotiques. Ce groupe s'est réuni pour la première fois en octobre 2010. Le champ d'activité de ce groupe est plus important que la simple sécurité sanitaire des aliments et c'est la raison pour laquelle l'OIE a invité l'OMS et la FAO à y participer plutôt que d'inviter seulement le Codex. Le groupe a mis à jour le chapitre du Code sur les animaux terrestres, en particulier le chapitre concernant la trichinellose et mis au point des recommandations concernant l'Echinococcus granulosus. C'est un parasite zoonotique qui n'est pas associé à la nourriture, mais dont la transmission peut être empêchée grâce à de bonnes mesures d'hygiène. Le chapitre révisé du Code sur la trichinellose et les nouvelles recommandations sur l'Echinococcus granulosus ont été envoyées aux membres de l'OIE pour entendre leurs commentaires en mars 2011. L'OIE est heureux d'accepter l'invitation à participer à une réunion du groupe de travail physique du Codex sur les directives pour la lutte contre des parasites zoonotiques spécifiques dans la viande, la Trichinella spiralis et le Cysticercus bovis en juillet 2011. Nous espérons que cela nous permettra de coordonner nos approches et que nous pourrons ainsi mettre au point de nouvelles normes pour la production animale en toute sécurité. Madame le Président, pour terminer, je rappellerai qu'au nom des 178 membres de l'OIE, nous souhaitons poursuivre notre étroite collaboration avec le Codex. Je suis convaincue que nos relations de travail, qui sont à la fois étroites et efficaces, reflètent l'engagement de la part du secrétariat et surtout de la part des membres des deux organisations. Toutefois, en cette époque où nous défendons une santé unique, je pense qu'il est possible d'étendre notre collaboration afin d'en faire bénéficier les membres des deux organisations. L'OIE est disposée à relever ce défi de concert avec vous. Je vous remercie de votre attention.
Thank you very much. Why?
Je remercie l'OIE. Le Japon demande la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Japon se félicite de la poursuite de la collaboration entre le Codex et l'OIE. Cette collaboration a pour but d'assurer la production animale en toute sécurité. Le Japon aimerait évoquer la discussion qui est en cours et qui a eu lieu au comité SPS de l'OMC concernant la mise en œuvre et l'application de l'accord SPS. Il s'agit notamment du rapport du groupe de travail sur l'accord SPS. Également le rapport du président sur l'atelier de la commission SPS qui s'est déroulé en octobre 2009. Les recommandations portant sur des activités conjointes menées par les trois organisations doivent porter sur des questions transversales. Pour assurer le succès de ces autres organisations, nous pensons que la procédure de travail devrait être à la fois cohérente et transparente. À cet égard, le Japon reconnaît que l'OIE a énoncé un principe qui veut que l'on recherche le consensus lors de l'élaboration de normes. Cela étant, il faut que l'OIE ait une politique plus claire encore et qu'elle soit appliquée si l'on veut améliorer la transparence des travaux de l'OIE. Le Japon espère que l'OIE s'efforcera d'utiliser une procédure uniforme pour l'évaluation des normes et que l'OIE fournira à ses membres la possibilité de présenter des commentaires. De cette façon, l'OIE pourra assurer à la fois la transparence et l'inclusivité. Merci. Le Président, je remercie le Japon de ses observations. Plus personne ne demande la parole. J'aimerais simplement prendre note du fait que dans le document d'information, la question des normes conjointes et du processus que nous avons accepté en tant que commission sera soumise au comité des principes généraux en raison d'un certain nombre de questions qui ont été soulevées cet après-midi. Je ne sais pas si le conseiller juridique a quelque chose à ajouter sur l'exposé fait par l'OIE. Non, il n'y a pas de commentaire. Bien. Dans ces conditions, nous prenons note des informations fournies par l'OIE et plus particulièrement de la poursuite de la collaboration entre l'OIE et le Codex. C'est une collaboration qui est bénéfique pour les deux organisations. Je remercie le représentant de l'OIE. Je propose que maintenant, nous donnions la parole à l'OMC. Monsieur Xavier Ochampo va nous faire une déclaration au nom de l'OMC. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole pour vous mettre au courant des activités déployées par le comité SPS de l'OMC depuis la dernière session de la commission du Codex. Un rapport écrit a été soumis par le secrétariat de l'OMC et figure dans le document CAC-34-INF-3. J'invite les participants à lire ce rapport à tête reposée, mais auparavant, j'aimerais quand même m'arrêter sur quelques questions importantes. Entre 2010 et mars 2011, 13 questions concernant la sécurité sanitaire des aliments ont été soulevées au comité SPS de l'OMC pour la première fois. Et 6 de ces questions ont été réglées. Vous trouverez mention de ces questions aux pages 3 et 4 du document. Pour ce qui est de l'assistance et du renforcement des capacités, je suis heureux d'informer la Commission que des ateliers régionaux du SPS sont prévus cette année dans la région des Caraïbes, au mois de juillet à la Barbade, et ensuite au mois de novembre, nous organiserons également un atelier pour les pays d'Afrique anglophone au Kenya et pour les pays d'Afrique francophone qui devraient avoir lieu au Mali. Et également pour les pays arabes au Qatar. Un représentant du Codex prendra une part active à ces réunions sous forme de personne ressource. Et nous invitons bien sûr tous les intéressés à participer à ces ateliers importants. Nous pensons que nous pourrons accueillir environ une quinzaine de pays ou davantage. L'OMC assurera les frais des participants pour ces activités. D'autre part, le secrétariat va organiser un atelier spécial sur la coordination du SPS au niveau national et régional, ainsi qu'un cours avancé sur le SPS. Cela aura lieu à Genève en octobre 2011. L'OMC va financer un certain nombre de participants. Je tiens également à souligner que dans la mesure où les demandes pour les régions africaines et Moyen-Orient ont été extrêmement basse, le délai a été prorogé jusqu'au 22 juillet au lieu du 8 juillet. Dans un résumé qui fait une page et qui se présente sous forme de prospectus, vous trouverez toutes les informations voulues. Je vous invite à diffuser ces activités concernant l'assistance technique auprès de vos collaborateurs pour qu'ils puissent en bénéficier. En ce qui concerne les questions de transparence au comité SPS, nous sommes heureux de rappeler que nous avons lancé un nouveau système de soumission des notifications, le NSS, et le but est d'adresser directement les notifications du SPS en ligne. En ce qui concerne l'examen et la mise en œuvre du SPS, au mois d'octobre 2010, une réunion informelle a décidé de donner la priorité à cette question. Dans le même temps, il y a la collaboration qui est prévue entre l'OMC et les autres partenaires. D'autre part, lors de l'atelier de 2011, nous avons souligné quels étaient les rapports entre l'OMC et les trois organisations sœurs. Comme l'a dit le Japon, nous menons des activités conjointes avec deux des organisations sœurs ou trois, par exemple sur l'homologation, l'inspection, les procédures d'approbation et l'analyse. Nous essayons également de voir comment est-ce que l'on peut parvenir à des équivalences entre les normes pour ce qui est d'un certain nombre de produits. De cette façon, nous aurons davantage d'informations et nous pourrons identifier de quelle façon nous pouvons assurer la coordination au niveau national entre les représentants des organisations sœurs et le représentant du SPS. Pour ce qui est des normes privées, au mois de mars 2011, le comité a accepté 5 mesures visant à définir le champ de portée de notre discussion et de promouvoir un échange d'informations entre les entités privées pour voir comment est-ce que les normes privées sont mises au point. Nous avons également examiné la question de l'application du SPS et des mesures qui doivent être prises. Nous nous sommes également intéressés aux questions sur lesquelles il n'y a pas encore de consensus. Il y aura de nouveau une réunion au mois d'octobre. J'aimerais aussi vous donner quelques informations concernant le règlement des différends. Au mois de mars 2011, 14 groupes ont été constitués pour examiner 19 questions, 19 affaires liées au SPS. La plupart de ces affaires concernent la réglementation en matière de sécurité sanitaire des aliments. En ce qui concerne le groupe de l'Union européenne qui approuve les règles, il y a un règlement qui est intervenu. Il y avait une plainte qui avait été déposée auparavant par le Canada et par l'Argentine. En ce qui concerne le groupe États-Unis et contre la Chine pour des importations de poulet de Chine, nous avons estimé que les mesures prises étaient compatibles avec différentes dispositions du SPS. Mais on n'a pas pris de mesures parce que les mesures étaient parvenues à expiration. D'autre part, les membres de l'OMC avaient approuvé officiellement ces nouvelles mesures. En ce qui concerne d'autres affaires, vous pouvez trouver tous les détails dans notre rapport. Merci.
Thank you, W.
Je remercie l'OMC. Nous prenons note de toutes ces activités qui ont été menées à l'OMC et également les activités qui sont prévues. Nous aimerions demander aux membres qui sont intéressés par ces activités de bien vouloir contacter l'OMC. Je vous remercie. Maintenant, je vais donner la parole à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, M. David Barron. Vous avez la parole.
David, please.
Thank you very much.
Merci beaucoup, M. le Président. Merci à la Commission du Codex Alimentarius de nous donner la possibilité de vous présenter brièvement un résumé de nos activités de notre division sur les technique nucléaire dans la division alimentaire. En fait, toutes ces informations se trouvent dans le document CAC, barre 34, 1, fin 7.
What I'd mostly like to highlight...
J'aimerais surtout souligner à cette réunion, Monsieur le Président, nos activités liées aux urgences qui se sont présentées récemment. Tout particulièrement, nous travaillons avec diverses divisions de la FAO à Rome, et avec d'autres organisations internationales pour préparer et répondre face aux urgences de radionucléides qui peuvent toucher les produits alimentaires et l'agriculture, y compris les activités de la FAO qui est l'homologue intéressé pour définir les mesures qui peuvent être prises pour remédier à la situation en réaction à de tels événements. Je voudrais rappeler que les dernières activités de la FAO à propos de la division conjointe FAO-AIEO sur les techniques nucléaires, qui se tient d'ailleurs à Rome, signifie que nous avons mis à disposition du personnel à Vienne pour préparer des textes de briefing et des informations concernant le suivi de la contamination des produits alimentaires et des restrictions concernant la consommation de produits alimentaires dans la situation japonaise qui a surgi il n'y a pas longtemps. Toute une série de conférences vidéo ont eu lieu par le biais de notre groupe conjoint dont nous sommes membres de plein droit pour déterminer ce type de problème dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Nous avons aidé la FAO à la préparation et à la distribution de formulaires concernant la sécurité des produits alimentaires. Et nous avons également essayé de déterminer précisément quelles étaient les teneurs en radionucléides autorisées dans les produits alimentaires. Finalement, Monsieur le Président, nous avons participé à une évaluation de la sécurité sanitaire des aliments lors d'une mission au Japon à la fin du mois de mars dernier pour identifier et aider les activités qui ont eu lieu à propos de la préparation aux urgences et de la réaction en cas d'urgence, de même que les mesures et remèdes pouvant être adoptés pour faire face à cette situation au Japon. Nous avons de nombreuses autres choses à faire dans le domaine de la contamination des produits alimentaires et de l'utilisation de l'irradiation de produits alimentaires. Je voudrais simplement souligner une de nos activités. Il s'agit d'un projet de recherche coordonnée et la préparation de doses génériques d'irradiation pour le traitement de quarantaine. Nous travaillons avec les trois organisations sœurs. L'une d'entre elles, bien sûr, est l'UPPC, à savoir la Convention sur la protection végétale, Convention internationale de la protection végétale. 14 traitements phytosanitaires post-récolte ont également été définis. Encore deux sujets, Monsieur le Président. Nous avons également collaboré avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et sur les résidus de produits vétérinaires et de pesticides dans les produits alimentaires. Et le Codex a adopté certaines normes et nous avons adopté des procédures pour avancer dans ce domaine. Et finalement, en relation des microtoxines dans les produits alimentaires, qui a été soulevé à la 65e session du comité exécutif qui s'est tenue la semaine dernière, la division conjointe FAO-AIEA collabore à Rome sur les avec le PAM pour définir des structures éventuelles d'un outil, d'une base de données qui nous permettrait de mettre en place des schémas nous permettant de détecter des microtoxines dans diverses parties du monde et dans divers environnements. La prochaine réunion que nous aurons à ce propos se tiendra cet automne. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de faire ces quelques commentaires.
Thank you very much.
Merci à l'AIEA de nous avoir donné des informations sur les travaux en cours à l'heure actuelle et les relations que nous avons avec la Commission. Le Japon a la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous aimerions exprimer nos remerciements le plus sincère pour l'assistance et le soutien dont nous avons bénéficié de la part de l'AIEA et d'autres organisations internationales après l'accident qui a touché la centrale nucléaire. Pour ce qui est de la sécurité sanitaire et de la santé publique, toute une série de mesures immédiates ont été prises par le gouvernement japonais. Nous avons préparé un rapport pour veiller à ce que tous les produits alimentaires distribués répondent aux exigences en matière de nucléosides et à la sécurité sanitaire des aliments et à la condition de l'environnement qui doivent être respectées. Les mesures qui ont été prises jusqu'à présent l'ont faite d'une façon tout à fait transparente et ouverte. Les informations sont également partagées avec les organisations internationales pertinentes, l'AIEI, la FAO, l'OMS et l'OIE. Sous la direction du Premier ministre japonais, nous avons poursuivi nos efforts pour garantir que tout produit alimentaire dépassant les limites, ne soit vétérinaire ou autre, ne soit pas sur le marché. Nous continuons à améliorer la transparence et les dispositions d'informations précises qui doivent être données, cela le plus possible. Nous sommes heureux de pouvoir travailler en étroite collaboration avec ces organisations pertinentes dans ce domaine pour faire face au problème des radionucléides et de la contamination par radionucléides. Je vous remercie. Je remercie le Japon. Nous prenons note de votre remarque et de la collaboration qui se poursuit avec l'AIEA. Merci beaucoup. J'invite maintenant l'OCDE à prendre la parole. Ah, l'OCDE n'est pas présente dans la salle. L'OCDE n'est pas présente. Alors, j'invite le directeur général de l'Organisation internationale du vin et de la vigne à prendre la parole, Monsieur Federico Castellucci, qui va nous faire une déclaration. Merci.
Thank you, Chair.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres du Codex, observateurs. C'est un grand plaisir pour moi que de prendre la parole. Juste quelques jours avant de souhaiter la bienvenue aux 49 États membres, 149 membres, à savoir la République de l'Inde. L'OIV souhaite manifester son intérêt dans les travaux du Codex Alimentarius et la nécessité de nos opérations à coordonner leurs travaux et à coopérer dans les domaines d'intérêt commun. L'Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, a un statut d'observateur auprès du Codex, et cela depuis de nombreuses années. Elle est définie comme étant une organisation intergouvernementale de nature scientifique et technique qui a une expertise reconnue dans le domaine du vin et des boissons à base de vin, de raisin et d'autres produits tirés du vin. Nous n'avons pas développé des normes depuis sur le vin à partir de 1996, mais nous avons toujours produit des résultats et je suis ravie de voir toutes les références croisées qui existent, par exemple les travaux concernant le comité du Codex sur les contaminants dans les produits alimentaires. Louis V a été invité à participer aux travaux du comité du Codex sur les contaminants dans les produits alimentaires en tant qu'observateur. Cette collaboration est devenue une réalité récemment quand la commission du Codex Alimentarius a adopté le code de pratique pour la prévention et la réduction de l'ocratoxine A, de la contamination par l'ocratoxine A dans le vin. Aujourd'hui, nous poursuivons notre participation active aux travaux du comité de la commission du Codex ou du comité du Codex sur les contaminants et à participer à la révision de certaines limites, particulièrement celle du plomb dans le vin. Le Codex a adopté une limite pour les vins sur la révision des limites de plomb qui avaient été lancées à la 5e session du comité du Codex sur les contaminants dans les produits alimentaires. Les travaux concernant les additifs alimentaires. L'OIV joue également un rôle actif dans les activités du comité du Codex sur les additifs alimentaires, surtout au cours des discussions concernant des dispositions relatives aux additifs alimentaires dans les normes générales du Codex pour les additifs alimentaires, GSFA, et plus particulièrement pour le vin de raisin, donc cette catégorie et ses sous-catégories. Il y a quelques années, l'OIV était une des organisations principales qui ont participé à l'examen et à la révision du système des catégories des produits alimentaires en demandant qu'une catégorie de vin de raisin soit distinguée des catégories des vins d'eau tirés d'autres choses que le raisin. Aujourd'hui, nous participons activement à ces travaux dans les Donc, les travaux du comité du codex des additifs alimentaires, tout particulièrement à propos des dispositions relatives aux additifs alimentaires dans les normes générales du codex pour les additifs alimentaires pour la catégorie de vin tiré de raisin. Nous avons déjà déclaré notre intérêt pour participer au groupe de travail électronique pour identifier les catégories alimentaires pour lesquelles les régulateurs d'acidité, les émulsifiants, les stabilisateurs et les épaississants sont justifiés du point de vue technologique. Nous allons également travailler avec ce comité pour fournir des informations supplémentaires spécifiques pour les additifs de la catégorie des vins de raisin. Pour ce qui est des travaux relatifs aux fruits frais et aux légumes, l'OIV a participé aux travaux lancés par le comité du Codex à titre d'observateur. La collaboration entre le Codex et l'OIV est récemment devenue une réalité, une contribution scientifique ayant eu lieu à propos de la finalisation de la norme du Codex pour le raisin de table et plus particulièrement les sections qui établissent une relation entre la maturité et le poids minimum des grappes. En 2008, une norme sur la maturité minimum requise pour le raisin de table a été adoptée. Aujourd'hui, l'OIV continue à être actif dans les travaux du comité du Codex pour les fruits frais et les légumes et doit cibler certaines dispositions de la norme du Codex pour les raisins de table. En outre, le travail de l'OIV sur une norme spécifique pour les raisins contribuera peut-être à la contribution scientifique et technique aux travaux du comité du Codex. En outre, diverses normes et principes fixés par le Codex Alimentarius ont été pris en considération quand on a rédigé des normes spécifiques pour le secteur vinificole. Elles comprennent entre autres le rôle de la science pour mettre en place des normes. Les principes établis par le comité sur l'importation et l'exportation de produits alimentaires, l'inspection et le système de certification adopté par la commission, la rédaction d'un projet de résolution de l'OIV à propos des directives de traçabilité dans le secteur vinificole, les principes et les définitions établis par le Codex Alimentarius sur les biotechnologies qui ont été prises en considération lorsqu'on a rédigé certaines définitions spécifiques au secteur du vin et de la vigne à propos des biotechnologies. Cela montre l'intérêt que l'OIV a dans les travaux du Codex, de même que la nécessité de nos deux organisations de coordonner et de coopérer dans ces domaines d'intérêt commun. Alors que les normes internationales deviennent de plus en plus importantes par le biais des mécanismes établis par l'OMC, les relations entre le Codex Alimentarius et le secteur du vin et de la vigne, représenté par l'OIV, devraient être renforcées. Les boissons à base de raisin font partie des produits alimentaires et constituent une part croissante du commerce international. L'OIV a également développé avec la FAO la statistique internationale dans ce secteur. Toutes ces données se trouvent sur le site web et à l'heure actuelle, pratiquement 40% du vin est consommé à l'extérieur du pays de production. Et pour un grand nombre de pays qui ne sont parfois même pas très affluents, le commerce des produits vitivinicoles représente une partie significative de leurs exportations en termes de valeur. Je vous remercie.
Thank you very much, Director General.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Directeur de l'OIV. Je vous remercie pour votre coopération continue avec le Codex. Nous encourageons une plus grande coopération encore. Je voudrais maintenant passer aux relations entre la Commission et les organisations non gouvernementales. Et je vais maintenant inviter l'ISO à prendre la parole.
For ISO.
Le secrétaire de l'ISO, Madame Sandrin, a la parole pour faire sa communication.
ISO, please.
Thank you very much.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la possibilité de faire un commentaire en tant qu'observateur devant la Commission. Je suis la secrétaire, comme vous l'avez mentionné, du comité technique de l'ISO sur la sécurité des produits alimentaires et je prends la parole au nom de Monsieur Kevin McKinley, secrétaire général, qui ne peut pas participer à cette réunion aujourd'hui. L'ISO est une organisation internationale non gouvernementale qui comprend tous les instituts de quelques 163 pays. C'est le développeur de toute une série de normes volontaires internationales avec la collaboration de plus de 18 000 normes internationales. 800 d'entre elles, plus de 800 d'entre elles se trouvent dans le domaine des produits alimentaires. Nous avons développé ces normes sur la base des principes qui sont fixés par le TBT-OMC et plus particulièrement la transparence, l'ouverture, l'impartialité et le consensus sont essentiels pour nous. Et il s'agit également de tenir compte des préoccupations des pays en voie de développement, ce que je tiens à souligner. L'assistance technique de l'ISO aux pays en développement pour soutenir leur participation à ces travaux techniques. La participation aux réunions de l'ISO est favorisée, le renforcement des capacités pour utiliser et appliquer les normes de l'ISO. Il faut rappeler que les pays participent aux travaux de l'ISO. L'ISO et le Codex ont une longue histoire de coopération et de travaux complémentaires. Un rapport complet de notre collaboration se trouve dans le document CAC-34-6. Le CAC est un partenaire important, alors que l'ISO essaye de faire du travail qui complète les travaux du CAC. La collaboration est essentielle. Et dans ce sens, l'ISO organise un atelier sur le poisson, les pêches et l'aquaculture en Indonésie. Le secrétariat, le FAO, l'OIE et l'industrie sera présente, de même que l'initiative sur la sécurité alimentaire. Nous avons donc un lien direct avec l'industrie de la production de produits alimentaires. Nous avons des sous-comités sur les systèmes de gestion des produits alimentaires. Nous avons une série de programmes que nous coordonnons avec le CAC. Voyez le paragraphe 26 de mon rapport. Je suis ravie de pouvoir vous informer du fait que la prochaine réunion plénière de l'ISO-TC 34 aura lieu au Kenya au mois d'avril 2012 et prévoira un séminaire concernant les pays en voie de développement d'Afrique. Finalement, à titre d'information pour les membres du CAC, je dirais que l'ISO et l'OIE ont signé aujourd'hui, pendant la pause du déjeuner, un accord sur la coopération sur notre travail dans les domaines d'intérêt commun. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir donné la possibilité de faire ces quelques commentaires. Merci. Merci à vous, Madame. Je remercie l'ISO de ses commentaires. Je remercie toutes les délégations qui ont fait maintenant des déclarations. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre collaboration et votre coopération. Au nom de l'ensemble des membres de la Commission, nous espérons que cette coopération se poursuivra dans l'intérêt de nos organisations respectives. Nous sommes ainsi arrivés au terme du point 13 de l'ordre du jour. Nous allons maintenant revenir au point 7 avec le vice-président Davi qui va reprendre la présidence. Je vous remercie.